qui dit qu'un humain a déjà été tourné. Sauf que Raël, il me semble qu'il a déjà dit qu'il l'avait déjà fait, là.
Pour les Chinois.
Tu sais, on sait pas. Mais il reste que principalement de faire des aliments clonés, c'est des aliments qui, à quelque part, moins néfastes pour l'environnement parce que ça en prend. Tu vas avoir tout de suite une viande parfaite. Il y a des avantages scientifiques associés à ça, mais le but du message, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'identifier, d'étiqueter l'aliment cloné. Rappelez-vous, il y a quelques années, je dirais, il y a près à 5-6 ans, peut-être plus, on parlait du saumon de la compagnie Aqua Adventure. C'est un saumon transgénique, donc c'est un saumon OGM, un organisme génétiquement modifié, qu'on a modifié pour qu'il prenne 3 ou 4 fois moins de temps pour atteindre sa pleine maturité. Et il y a une compagnie qui s'appelle Aqua Adventure qui existe encore, qui fait des saumons transgéniques. Donc, il y a une grande piscine, puis ils font des saumons transgéniques, des espèces de gros saumons qu'on mange, puis qu'on ne sait même pas qu'on a du saumon transgénique.
Mais c'est du bon pour la santé quand même.
Oui, en termes de nutriments, puis de protéines.
Il n'y a aucune différence. Okay. La différence, c'est que qu'est-ce qu'il arriverait si un saumon de ce type-là s'en irait dans la mer? Et on a un organisme génétiquement modifié qui rentrerait dans la nature. Là, présentement, c'est dans une piscine que c'est, mais moi, je me pose toujours la question.
Ça déprogramme-tu de l'ADN du saumon?
Ça va créer une nouvelle espèce. On a fait un peu.
Imaginez, là, on a fait un super saumon qui grossit 2 fois, 4 fois plus vite que son comparse qui est naturel. On le prend, puis on le met dans la nature. Dans l'océan.
Ouais, l'hybride de ça va donner quoi?
Ben, c'est ça qui
va
faire peur.
C'est ça
qui me fait peur, moi, parce que du moment que tu joues avec la nature, là tu joues quand même avec la nature, tu joues avec l'ADN. Oui. Tu te déprogrammes ou tu reprogrammes quelque chose et tu joues ça dans la nature, quelle sera la réponse de la nature par rapport à ça? On le sait pas. En tout cas, du moins, on pourrait bien extrapoler. Mais à court terme, on parlait de clonage tantôt. Quel serait l'avantage de l'être humain de faire du clonage?
On pourrait nourrir tout le monde de sa planète.
Ben, on parle d'humain, là, clonage d'humain.
On y va avec la perfection, là. On viserait la perfection.
Mais tout le monde serait pareil. C'est parce que tu chercherais la perfection, mais tu chercherais l'être humain qui n'a pas de maladie génétique. Ouais. Tu chercherais l'être humain qui veut avoir les yeux bleus, qui mesure 6 pieds 2, qui ne fait pas d'embonpoint, pas de diabète, pas de maladie quelconque. Là, c'est plus pareil. Mais à court terme, le clonage pour en faire des cellules souches, c'est quelque chose qu'on travaille présentement qui serait intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on prend tes cellules à toi. OK, mettons que tu as un cancer quelconque, OK, ou un cancer léger, que ce qui te manquerait, ce serait une greffe de cellules souches, mais de tes propres cellules souches, mettons, 2 fois. Donc, on pourrait, autrement dit, programmer en laboratoire de prendre tes cellules somatiques, de faire une réplication de tes cellules somatiques, qui est ton ADN à toi, dans une programmation que ces cellules-là pourraient faire des cellules de foie, 100% les tiennes, 100% saines.
Saines, c'est ça, ouais.
Et c'est que ces cellules de foie-là, on pourrait te les mettre, enlever la partie de ton foie inopérant et y mettre ces cellules souches-là, qui est un clonage. Sans risque de rejet et qui fonctionnerait. Donc, peu importe le type de cancer, ça peut être régénérer des cellules cérébrales, régénérer le pancréas.
Ouais, on pourrait-tu extensionner la vie avec ça?
Oui, c'est sûr. Mais là, moi, à court terme, le clonage que moi, je trouverais thérapeutique, efficace, qui fonctionne sans rejet, qui ferait en sorte qu'on serait moins dépendant de personnes qui attendent une greffe quelconque, une greffe, peut-être pas de greffe de cœur ou ces choses-là, mais une greffe d'un organe qui produit des enzymes, des hormones. Moi, je pense que c'est une science qui va devenir de plus en plus populaire dans les années à venir parce qu'il y a de plus en plus de cancers qui touchent certains organes. Le foie qui va toucher le pancréas, le poumon, les reins. Donc, on pourrait faire un espèce de clonage de nous-mêmes pour pouvoir nous auto-guérir.
Un peu comme l'intelligence artificielle, ils vont prendre des normes, là.
Exact.
Parce que, écoute, moi, fais pas confiance à la Corée du Nord, par exemple.
Ça pourrait déraper. Mais voyez-vous que l'intelligence artificielle, ça va être, selon moi, scientifiquement, ils vont emmener des solutions que l'être humain, de par tout ce qu'il a appris dans sa vie, l'intelligence artificielle va faire une vitesse grand V pour faire des équations qui vont faire en sorte que...
Ça va dépasser nos limites.
Prenez un exemple juste au niveau pharmaceutique. OK? présentement, il y a beaucoup d'études qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des nouvelles molécules pour guérir des gens, pour créer une molécule pour l'Alzheimer, une molécule pour le diabète. Et c'est l'intelligence artificielle qui, elle, avec toutes les formations qu'on lui met dans ses algorithmes, de tous les médicaments qui existent à la planète, bon, il y a un algorithme pour ça, elle va penser, puis elle va dire, peux-tu me produire une molécule qui va être efficace pour telle affaire, telle affaire, telle affaire? L'intelligence artificielle, elle, va faire ses calculs, puis elle va t'émettre un nom d'une molécule que l'être humain peut fabriquer, qui va être un nouvel antibiotique, qui va être un nouveau
médicament
quelconque. Puis que là, on va faire des études cliniques pour prouver que ce que l'intelligence artificielle a mis sur papier, est-ce que ça fonctionne? Et là, on va avoir des études cliniques chez les êtres humains, blablabla. Bla, bla, bla. Et à mon avis, l'intelligence artificielle va emmener des molécules qui n'existent pas, ou du moins que l'être humain n'a pas encore pensé, dans un délai ultra rapide. Ce qui fait que dans les 10-15 prochaines années, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans l'intelligence artificielle? Parce qu'eux autres, les gens disent, bien, l'intelligence artificielle va peut-être avoir raison ou trouver des réponses qu'on recherche depuis plusieurs années parce qu'elle, avec son intelligence, mais du moins avec tous les algorithmes qu'elle peut avoir, bien, elle peut amener peut-être une solution que nous, ça prendrait encore plusieurs dizaines d'années avant d'arriver.
Toujours intéressant, M. Mark Hamilton.
Eh bien, merci.
C'était du début jusqu'à la fin. Merci.
Merci.
Bye bye.
Le retour de Radio X. Radio X.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Le retour.
And I don't like it at all. Okay?
De Radio X.
Avec DH.
Okay?
Jordan et Mel Trudel.
I don't like it at all.
Radio X.
Hey, on a des invités de qualité aujourd'hui. C'est un feu roulant depuis 3h30. Mais en fait, en 3h, nous autres, on a jasé les trois. On avait pas mal de mémérages.
Un gros show, hein?
Ça arrête pas
de bien aller.
On finit ça en beauté avec Dr. Louis-Olivier Gagnon, urologue chez les cliniques Marois, parce que c'est le Movember.
Yes. Ça? Salut, DH.
Merci d'être là.
Oui, c'est ça. Le mois de novembre, c'est le mois de la sensibilisation à la santé masculine. Donc, le mois d'octobre, c'est plus le côté féminin avec le cancer du sein et tout ça. Donc, le ruban rose et compagnie. Donc, le mois de novembre, ben, c'est le mois qu'on prend le temps là, de sensibiliser les gens, puis les hommes particulièrement, à la santé masculine. Donc, le cancer de la prostate, cancer des testicules, la santé mentale également, ça englobe tout ça. Si on parle du Movember en tant que tel, ben, ça, c'est un mouvement là, qui est né là, il y a, en 2003. Là, c'est né en Australie, en fait, là. Ça a pris de l'ampleur, là, c'est rendu un peu partout dans le monde, c'est dans 21 pays, il y a ça au Canada, il y a un site web là, de Movember. L'idée, là, c'est d'apporter l'attention là-dessus.
C'est la petite moustache, Movember.
Ben, c'est
aussi,
ça, là, c'est, ça hein? C'est le mélange du mot moustache et novembre. Là, ouais. Movember.
Donc, tu le fais?
Ben moi, je fais plus la barbe parce qu'on m'a dit que ça me faisait pas super bien la moustache. Là. Fait que c'est plus la barbe. Mais bref, c'est ça. Le but, c'est d'apporter de l'attention là-dessus puis de sensibiliser les gens à ça. Là. Je pense que le coach du Canadien, Martin Saint-Louis, qui le fait, là, on voit sa moustache. Là. Donc, c'est pour sensibiliser les gens à ça puis inciter les gens à poser des questions puis se renseigner là-dessus. C'est ça. Ben, plus spécifiquement, le Movember, là, on peut même ramasser de l'argent pour ça. Donc, les gens, il y a un site web, vous pouvez ouvrir un profil, vous prendre en photo, puis solliciter les gens là, pour des dons également. Là. Donc, on peut ramasser de l'argent pour ça, mais essentiellement, là, c'est de sensibiliser les gens à ça, puis à la cause, là, puis au cancer de la prostate. Notamment pour le cancer de la prostate, ben, l'importance du dépistage. Que les gens se fassent la réflexion puis en parlent à leur médecin, que ce soit leur médecin de famille ou l'urologue. Le dépistage pour le cancer de la prostate, ben c'est avec deux modalités. Là. Il y a la prise de sang, l'APS, là, l'antigène prostatique spécifique, puis il y a le fameux toucher rectal que des fois, les gens sont un peu...
plus réticents. Moi, j'ai
repoussé
ça.
C'est sûr
que
c'est...
de 6 ans, moi.
Pardon?
Moi, je l'ai repoussé de 6 ans, moi.
Ah, okay.
À 5 ans, je vais le faire, mais ça s'est fait à 56.
Je pense que tu avais peur.
Hein? Ah, ça me tentait pas. Je sais pas, j'avais un malaise. Là, puis j'avais eu une ou deux fois des prises de sang.
Ouais.
Mais ça, je pense que c'est pas suffisant. Faut faire les deux.
Habituellement, c'est vraiment les deux. Là. Ouais. Effectivement, c'est à partir de 50 ans qu'il faut commencer habituellement. Puis on fait les deux, là, et la prise de sang et le toucher. Mais c'est sûr que les patients, quand ils viennent nous voir en clinique, ils sautent pas de joie là, quand on leur dit qu'on est rendu au toucher rectal.
Puis finalement,
c'est pas si pire que ça.
Sorti de là, moi, j'ai dit, bah, c'était juste ça.
Mais c'est sûr qu'il y a des choses plus folles que ça dans la vie, là, clairement. Là. mais c'est c'est important parce que le toucher, c'est pour aller voir s'il y a une bosse ou non.
Oui.
Donc ça, ça peut nous guider. C'est sûr que le plus important, c'est la prise de sang parce que la majorité du temps, là, quand on trouve un cancer, c'est grâce à la prise de sang. Donc, c'est important de faire ce dosage-là. À partir de 50 ans, pour la majorité des gens.
Mais si vous avez... le toucher rectal, là, c'est que vous autres, là, quand vous le faites, là, c'est une bosse que vous ressentez, c'est quoi?
Oui, bien c'est ça. Le but, c'est d'aller palper. Dans le fond, c'est la portion postérieure de la prostate qu'on peut palper en mettant le doigt là, au niveau là, de l'anus et du rectum. Donc, on va aller palper la paroi postérieure, puis on peut sentir un nodule ou une bosse. S'il y a un cancer qui est localisé en postérieur, mais s'il est ailleurs dans la prostate, on ne va pas nécessairement le sentir. Donc, on va sentir soit une bosse ou même une induration, donc la prostate qui est dure. Donc ça, ça va nous donner comme un signal d'alarme là, comme quoi il faut faire des tests supplémentaires. Donc, on va faire des tests supplémentaires, soit si le toucher est anormal ou si la prise de sang est anormale. Les tests supplémentaires, ça peut être résonance magnétique, biopsie de prostate et compagnie. Je voulais juste rajouter tantôt qu'habituellement, on commence à 50 ans pour le dépistage, sauf si on a un facteur de risque. Donc, si on a du cancer de la prostate dans la famille, là, ça augmente le risque des fois de 3 à 4 fois. Donc, père, frère, oncle, donc ça augmente le risque. Donc, il faut commencer plus jeune, donc à 40 ans. Les gens de race noire, là, les Afro-Américains, sont beaucoup plus à risque aussi. Donc, on commence à 40 ans. Les gens qui ont des anomalies génétiques, des fois BRCA1, BRCA2, donc il faut commencer plus tôt.
Nous, mesdames, on doit chaque mois là, faire l'auto-examen des seins. Puis je sais que chez messieurs, vous le faites probablement pas, mais on suggère fortement de faire l'auto-examen des testicules.
Oui,
peux-tu
exactement.
Un peu expliquer comment procéder puis au combien de temps ce serait... important de le faire.
Techniquement, ça peut être la conjointe là, qui le fait aussi. Là.
Aussi,
mais,
bon, OK.
Mais effectivement, là, pour le cancer du testicule, là, c'est le cancer le plus fréquent là, chez les hommes entre 15 et 40 ans. Puis la façon de faire le diagnostic, c'est quand même très simple, là, c'est la palpation. Donc, on recommande...
Dans la douche, ça se fait très facilement.
Une fois par semaine, dans la douche, là, d'aller palper les testicules pour être sûr qu'il n'y a pas de bosse. Parce que c'est important de le prendre là, tôt et rapidement. Parce que quand on l'attrape rapidement, le cancer du testicule, là, les taux de guérison sont très élevés. Là, t'sais, on connaît des gens là, qui ont eu le cancer
rapidement,
du testicule.
Rapidement, c'est quoi dans les 3 premiers mois, 6 premiers mois? C'est...
Ben, il faut le noter le plus rapidement possible parce que des fois, le cancer peut se propager ailleurs, dans les ganglions, dans les poumons, dans les os. Donc, idéalement, s'en rendre compte le plus vite possible quand il est localisé. Mais même s'il y a des métastases, les taux de guérison sont très élevés là, avec la chimiothérapie. Des fois, il y a même la radiothérapie qui peut être faite. Il y a des chirurgies pour aller enlever les ganglions. Là, si on pense au cycliste là, Lance Armstrong, lui, il a eu le cancer du testicule, puis il y avait des métastases, puis il est encore vivant. Il y a le joueur d'hockey Phil Kessel, là, pour les gens qui connaissent le hockey, là, qui s'est fait enlever son testicule aussi. Donc, on a plusieurs exemples comme ça.
C'est très douloureux, l'ablation.
L'opération en tant que telle, le patient est endormi, là, évidemment. Oui. Puis on enlève le testicule au complet. Puis c'est une petite incision là, dans l'aine droite. Dans certains cas, là, les patients sont plus inquiets au niveau esthétique. Là, fait qu'on va aller même mettre une petite prothèse là, testiculaire. Là. C'est comme optionnel. Là. C'est ça. Pour le point de Mel, effectivement, là, une fois par semaine, dans la douche, faire la palpation des testicules pour être sûr qu'on ne sent pas une bosse. Là. Les testicules, c'est comme plus mou un peu. Là. Fait que si on sent quelque chose de dur, là, c'est anormal. Il faut aller consulter là, un médecin, là, un urologue.
C'est normal. Quand tu fais le toucher de tes testicules, y a-tu des douleurs ou pas? Si jamais il y a une petite bosse,
Là, c'est quand même normal d'avoir mal aux testicules. T'sais, les gars, moi, j'examine beaucoup. Les gars, on est très sensibles là, aux testicules. Là. Il y en a même, c'est une des raisons de consultation principale à nos cliniques, là, les douleurs testiculaires. Ouais. Là.
Faut pas se fier. Il y a des filles, il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit dans les films érotiques. Là, où, les gars se font brosser ça pas mal.
Habituellement, les gars, on n'aime pas bien ça. Puis juste faire l'examen des testicules, il y en a qui sursautent, là, des patients aussi. Mais pour le cancer du testicule, c'est pas relié nécessairement de la douleur. Là. C'est vraiment la bosse.
Souvent, les cancers, c'est indouloureux. Hein?
Exact.
Okay, il y a une bosse, mais si pas de bosse, t'as pas de douleur, tu peux l'avoir pareil. Puis,
c'est vraiment la masse et la bosse, une anomalie au niveau là, de la palpation du testicule.
Okay.
Et il y a vraiment pas nécessairement de la douleur avec le cancer du testicule. C'est ça la particularité. Là.
Ça peut être gros comme un petit poids, ça peut être... vous sentez quelque chose en dehors de vos testicules, dans le fond.
Souvent, les patients, quand ils vont le palper, il va être au moins 2-3 cm. Là.
Oh!
Oui, c'est ça.
2-3 cm?
Oui, le cancer là, dans le testicule. Là. Avant de le sentir, il faut qu'il y ait quand même un minimum de grosseur. Là. Des fois, ça peut être quand même gros.
Y a-tu des causes à ça?
Il y en a qui ont des facteurs de risque. Ceux-là, que leur testicule n'est pas bien descendu à naissance, puis il faut qu'il y ait une correction, ça, sont plus à risque. Les gens qui ont déjà eu de la radiothérapie, il y a certains facteurs de risque, mais en général, ça apparaît comme ça. Là. Fait que c'est vraiment comme juste une malchance. Là.
OK. Ça touche un homme sur
Ça doit être peut-être un 1 ou 2 % de la population. Là. C'est pas très élevé. Là. Comparé au cancer de la prostate, que c'est un homme sur 7, là. C'est comme 15 % des hommes qui, dans leur vie, vont avoir un cancer de la prostate. Là. Cancer du testicule, c'est quand même beaucoup moins fréquent, mais c'est le plus fréquent chez les hommes de 15 à 40 ans.
Okay.
J'ai déjà entendu, je pense, c'est au niveau de la prise de sang là, qu'ils font de moins en moins parce qu'il y avait parfois, pas des faux positifs, mais comme un taux de PSA, je pense, qui parfois faisait peur, mais qui n'était pas finalement cancéreux. Ou peux-tu
bien, c'est sûr que pour le dépistage du cancer de la prostate, il y a quand même eu beaucoup de controverses. Là. C'est surtout là, dans les années 2011-2012. Il y avait une étude qui était sortie qui disait qu'il n'y avait peut-être pas tant de gains que ça là, à faire le dépistage, mais c'était une étude qui était vraiment truffée d'erreurs, qui avait beaucoup de problèmes. Finalement, il y a d'autres études meilleures qui sont sorties, des études européennes qui démontrent qu'il y a au moins un avantage, là, une diminution de la mortalité de 20 % là, à 40 % en faisant le dépistage. Donc, il y a vraiment des avantages au niveau de la mortalité. Puis dans le fond, c'est que si on ne fait pas le dépistage, c'est quoi l'alternative? Bien, c'est d'attendre d'avoir des symptômes. Puis quand on a des symptômes du cancer de la prostate, bien souvent, c'est quand c'est rendu trop tard. Donc, on a des douleurs osseuses, du sang dans les urines. Bien là, on est rendu avec un cancer métastatique. Tu sais, si on regarde, là, mettons, le président américain l'année dernière, l'ex-président, Joe Biden, lui, a eu un diagnostic de cancer de la prostate métastatique, donc de stade 4. Donc, il y a présumément des métastases osseuses, là, ce qui est le plus probable. Lui, il avait arrêté de faire le dépistage à l'âge de 71 ans. Là, ils l'ont découvert avec les symptômes. Donc, il est beaucoup plus avancé, là, le cancer. Donc, ça aurait été quand même bien de le diagnostiquer plus tôt. Là.
Question ici d'auditeur.
Oui.
Ça me surprend, mais on va l'aller pareil. Bonjour. Pouvez-vous lui demander pourquoi les médecins ne sont pas tous d'accord au dépistage du cancer de la prostate? Mon médecin à moi est contre ça. Il m'a donné un document à lire et m'a dit que si je le voulais, le dépistage, pas de problème, mais de lire ça avant.
Je pense que c'est en lien avec justement cette étude-là.
C'est,
hein?
Bien, c'est sûr qu'il y a eu une controverse parce qu'en 2012, avec cette étude-là, il y a comme un gros regroupement de médecins de famille aux États-Unis. Là. Ils appellent ça la US Task Force qui avait dit à tous les médecins de famille aux États-Unis d'arrêter le dépistage en raison de cette étude-là controversée qui a plusieurs erreurs dedans, qui ne démontraient pas davantage au dépistage. Donc, ça s'est propagé ici, puis les gens ils ont comme arrêté de faire le dépistage. Mais par la suite, les nouvelles études qui sont sorties, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt là, à faire le dépistage, puis les recommandations de ce regroupement-là ont changé depuis ce temps-là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de médecins de famille, pour différentes raisons, qui continuent à ne pas recommander le dépistage. Dans le fond,
via le toucher rectal ou
Le toucher rectal et le dosage de la prise de sang. Là.
Ben voyons, c'est complètement
ridicule. Mais tu sais, la ligne officielle là, des grands regroupements puis des lignes directrices, c'est de consulter son médecin de famille, l'urologue, puis de parler des pour et contre du dépistage, puis de juger si la personne le veut. Parce que dans le fond, le risque de faire le dépistage, c'est de découvrir un cancer qui ne causerait pas nécessairement de problème. Parce que dans le temps, tous les cancers, on les traitait. On faisait la chirurgie, on faisait la radiothérapie, qui peut donner dysfonction érectile, incontinence, donc qui donne beaucoup de
plus
problèmes.
Okay?
Mais là, maintenant, la tendance, oui, on fait le dépistage, mais s'il y a du cancer, dans certains cas, on ne fait rien. Quand c'est un cancer de faible risque, on va juste surveiller le cancer pour être sûr qu'il ne progresse pas. Donc, on n'a pas les problèmes de dysfonction érectile et d'incontinence. Si jamais il y a un cancer, ben oui, il y a les options standards, disons, qui sont faites au public, là, comme enlever la prostate au complet ou faire de la radiothérapie sur toute la prostate. Mais il y a des nouvelles technologies comme celles qu'on a aux cliniques Marois là, avec des ultrasons où est-ce qu'on va aller faire un traitement ciblé de la lésion au lieu de traiter toute la prostate au complet puis causer des problèmes d'érection ou d'incontinence. On va aller traiter juste la lésion ou la moitié de la prostate où il y a la lésion. Donc, pour avoir potentiellement beaucoup moins de risques d'effets secondaires.
Okay.
Donc, les risques reliés au diagnostic, au dépistage, deviennent beaucoup moins importants là, dans ce temps-là. Là. C'est ça.
Est-ce qu'il est vrai que de se masturber X fois par semaine pourrait réduire les risques de cancer de prostate?
Bien, il y a beaucoup de croyances comme ça. Là. C'est pas significatif. Là. Les gens là, qui veulent essayer de diminuer le risque du cancer de la prostate, c'est les conseils généraux qu'on donne là, tout le temps. Là, c'est d'avoir un poids santé, éviter d'être obèse ou d'être en surpoids, s'entraîner, bien s'alimenter, pas prendre d'alcool, pas fumer. Spécifiquement, il y en a qui vont manger plus de tomates, plus de brocolis. Oui, il y a des études qui disent que ça peut aider, là, mais en général, on dit là, juste là, de bien s'alimenter, faire de l'exercice. Éviter le surpoids.
Rien à voir avec le nombre de fois qu'il y a...
Non, c'est ça. C'est négligeable, là, les avantages. Là. Mais si ça peut aider avec la conjointe, là, oui. Là, mais avoir plus de relations sexuelles, là, on peut sortir des arguments comme ça. Mais non,
mais quelqu'un qui n'a pas de relations du tout, disons, pendant quelques années... Là,
ça ne fait pas de différence. Non.
En 30 secondes, est-ce qu'on s'améliore? Parce que c'est le temps qui nous reste.
Oh.
Est-ce que la technologie, la médecine s'améliore?
Ben oui, ben pour le cancer de la prostate, il y a beaucoup d'innovations. Ben je parlais là, du traitement avec ultrasons, mais pour la chirurgie pour le cancer de la prostate, on a le robot maintenant qui est de plus en plus répandu. Pour le cancer de la prostate métastatique, il y a tout le temps des nouveaux traitements qui sont découverts à chaque mois, à chaque année. Donc, c'est pour ça que la mortalité du cancer de la prostate va tout le temps en diminuant. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'avancées là, pour le cancer de la prostate, ça c'est clair et net. Là. C'est ça. Fait que juste encourager les gens là, à considérer là, le cancer de la prostate là, en ce mois de novembre. Donc, c'est ça, avec la prise de sang, le toucher, puis c'est ça, c'est un peu le point aujourd'hui. Là.
Louis-Olivier Gagnon, urologue. Toujours, ça va trop vite, 15 minutes. Tu fais partie de nos collaborateurs, on va te réinviter.
On n'a pas eu le temps de parler de la loi 2, en plus.
Oui, c'est ça. Oui, on pourra, on va te réinviter. Merci beaucoup.
Merci. Bye-bye.
Merci.
Le retour de Radio X.
Radio X.
Hey! Salut! C'est encore moi, ton sommeil. Bon, là, c'est le temps des fêtes. L'équipe festive de Dormez-vous m'a demandé de vous rappeler que c'est aussi le temps de dormir. Hein? Oui, il y a des portions de dinde à digérer, il y a des pyjamas drôles à essayer, il y a des siestes à faire dans la pile de manteaux sur le lit. Le cadeau à donner, c'est moi, le sommeil. Attends de me voir emballé. Hein?
Et vous aussi serez emballé, car le solde des fêtes se prolonge. Vous pouvez encore profiter de 25% de rabais sur presque tout. En ce moment, seulement chez Dormez-vous. Les conditions s'appliquent.
Salut Québec, ici Samuel Cadotte, propriétaire de Montréal Bungee. Cette année à Noël, offre un cadeau complètement malade. Le plus haut saut à l'élastique au Canada, en plein cœur du Vieux-Port de Montréal. Sors de l'ordinaire et procure-toi ton certificat cadeau sur montrealbungee.com.
Capsule
Radio X.
Pas de place pour tout après votre déménagement? Astral Déménagement a la solution. Entreposage sécuritaire, propre et chauffé à court ou long terme. Astral Déménagement, déménager, entreposer, respirer. Astral.ms. Tu veux t'offrir le cadeau parfait? Un F-150? Donnacona Ford. Tu veux un taux d'intérêt à 0%? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux le meilleur prix? On t'attend chez Donnacona Ford. Votre national sera en action le 11 janvier prochain au Centre Bonheur de l'Ancienne Lorette. Votre équipe affronte les éperviers de Sorel-Tracy à 14h. Venez encourager votre national. Ce match est présenté par Bernard Filiatro, gestionnaire de portefeuille à la financière Banque Nationale. Venez profiter de nos soirées hockey à l'un de nos restaurants Trois Brasseurs des Galeries de la Capitale, de Grande Allée ou Place Sainte-Foy. Pour une expérience hockey ultime, on se rejoint entre amis aux Trois Brasseurs. Bon plat et bonne bière brassée sur place vous attardent.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Le retour de Radio X.
Avec D.H., Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Hey, on est discipliné parce qu'il est 16h01 et on va jaser. On a parlé un petit peu tantôt, moi, je vais faire mon têteux, là, de toutes les humoristes féminine. C'est de loin ma préférée. Mariana Mazza, salut.
Allô, pourquoi féminine?
Ben, parce que... Ben non, mais t'es une femme.
C'est ton humoriste préféré.
Non, mais t'es une femme, là. Je dis parmi les femmes de bord, là. Tu sais, toutes les humoristes...
Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ta préférée en humour.
Ouais.
Oh.
Ben...
T'as-tu un préféré qui est plus préféré?
Hé, Maria, je vais pouvoir te dire... Mariana...
Dani, là... Moi, là, quand je dis là, mon animateur préféré au Québec, je dis pas mon animateur gars.
OK, tu dis ton animateur. Moi, mais je suis pas ton préféré. Fait que...
Oui, t'es mon préféré.
C'est sûr?
Ben oui, t'es mon préféré.
Ah.
Je me cache pas, moi.
Bon, ben tant mieux. Merci. Je me cache pas, moi non plus. Je voulais juste te mettre un petit peu, juste une petite pression. Tu sais, après ton show d'asseoir, je vais confirmer que t'es tout sexe confondu, ma meilleure.
J'espère.
Ben
t'es
oui.
Au show?
Ben oui.
Oh yes, je suis contente d'entendre ça.
J'ai juste des bons commentaires sur ton show, Maria. Non.
Écoute. J'espère que tu vas aimer autant que les commentaires que tu entends.
Foie gras, c'est le titre.
Oui.
C'est ton troisième.
Oui.
C'est-tu celui que tu as écrit avec le plus de facilité, rapidité ou il a été plus demandant, lui?
Ah, c'est le plus tough des trois. C'est le plus tough des trois. Le premier, c'était mon premier. Je me présentais, fait que tout était nouveau. Parler de n'importe quoi était nouveau, fait que c'était tout le temps une introduction. C'était une surprise tout le temps. Le deuxième, c'était une continuité. Le deuxième a été le plus facile à écrire parce que c'était une continuité du premier. Puis le troisième, c'est le plus difficile parce que j'avais envie d'aller ailleurs. Puis d'ouvrir la porte à une vulnérabilité que j'avais pas envie d'ouvrir avant.
Ah oui?
Oui.
Parles-tu de... du 7 ans, là, entre autres? Non,
ben oui, je parle d'Alexandre. Ben oui, je parle d'Alexandre Barrette. Ben oui, je parle de ma relation avec Alex. Je parle de mon diagnostic de la maladie du foie gras. Je parle de... Tu sais, je pense que c'est mon spectacle le plus vulnérable dans la mesure où je prends le temps de dire certaines choses que j'aurais peut-être pas dit dans d'autres spectacles parce que j'avais pas encore cette maturité-là. Puis là, je l'ai.
Hey, mais 7 ans en relation avec Alex, et ça a été en catimini, là. Il n'y a pas personne qui le savait. Ben, ton entourage proche, là, c'est sûr, mais comment tu as réussi à... Tu sais, pas cacher ça, mais en tout cas, est-ce que les gens le sachent pas ou n'en parlent pas?
Ben, les gens qui nous demandaient si c'était vrai, on répondait oui, mais on voulait pas que ça sorte publiquement parce qu'on voulait le garder pour nous. Tu sais, c'est notre vie privée, puis on avait envie de garder la seule chose qui nous restait de privée. Tu sais, moi, ma carrière, toutes mes opinions, ce que je disais, c'était public, puis je pense que c'était la seule façon pour nous de rester un petit peu terre à terre, c'est de se dire, hey, on peut-tu garder quelque chose pour nous, tu sais. C'était pas une honte, c'était pas rien de ça, c'était... Puis aujourd'hui, on en parle parce que ce qu'on a ressorti de ce couple-là, maintenant, vaut la peine d'en parler. Mais quand t'es dedans, ça... Il y a quelque chose de trop émotif. On voulait prendre soin de nous.
Mais deux humoristes ensemble, c'est-tu très, 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 très drôle? Ça peut aussi être des fois très platonique, là.
Ah, les deux, comme n'importe qui. T'sais, on est des humoristes sur scène, mais dans la vie, les deux, on pouvait finir nos phrases. On était capable de savoir qu'est-ce que l'autre allait dire. On se faisait et on se fait encore beaucoup rire, Alex puis moi. Alex et moi, on est encore de très grands amis. Il est là ce soir là, pour la première à Québec. Il a écrit sur le spectacle.
Il va-tu être dans la salle avec le monde?
Je sais pas. Je pense qu'il va être en arrière. Il a vu le spectacle de la salle à Montréal. Puis là, je pense qu'il va l'écouter d'en arrière. Ou il va aller en arrière en régie. Oui, oui, mais oui, il va l'écouter, c'est sûr. Okay. Il va le regarder au complet.
Mais là t'es-tu célibataire, Mariana?
Oui.
OK, 100% célibataire ou là...
Non, 100%. Non, 100%. Non, 100%. Je suis bien aussi.
OK. Puis lui, oui. Es-tu 100% célibataire encore?
Demande-y, je sais pas.
Okay. On l'appelle.
Ça le regarde, lui. Moi, je ne m'immisce pas.
Mais parce que vous dites que vous êtes en bon terme, mais là, je dis bon terme amical.
Oui, oui, non, mais je veux dire, c'est terminé. Terminé. Sexuellement, amoureusement, ensemble. Oui, oui, on est des très bons amis, mais chacun fait sa vie, là. Je veux dire, on est des ex qui se respectent beaucoup dans leur intimité, puis il n'y a pas de sous-entendu, là. On est vraiment des amis.
Hey, sais-tu quoi? Tu sais, il est 16h06, on est un vendredi le 14 novembre.
Oui.
Peut-être que ton futur nous écoute en ce moment, puis on le connaît pas, puis nous non plus. Peut-être.
Ben, je pense que toute notre vie, constamment, où est-ce qu'on va, à qui on parle, ou ce qu'on fait dans la vie, c'est tout le temps des peut-être quelque chose. Peut-être qu'en sortant de tantôt de la chambre d'hôtel, je croise quelqu'un, puis c'est l'homme de ma vie. Ça se peut que ce soit en traversant la rue. Ça se peut que ce soit jamais. On ne sait pas. C'est d'être au bon moment quand les astres vont s'aligner.
Hey, je vais faire quelque chose avec toi, mais on va faire quelque chose, toute l'équipe. Je suis avec Tibac aussi, Mélanie. On va te lancer 5 suppositions. Dis-nous,
OK?
Et peut-être que l'auditeur va se reconnaître et va dire, c'est bon, il parle de moi, là. Pour Mariana. OK?
Oui.
Bon, le gars, là, s'il est très, 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 très romantique, tu fais quoi? T'aimes-tu ça ou pas?
Ben, donne-moi ta définition de très, 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 très romantique.
OK, le gars,
on n'a pas la même définition.
Ouais. Le gars, il t'ouvre les portes souvent, là, puis il va t'amener des fleurs une fois par mois. C'est-tu trop?
Ben, c'est pas trop romantique, ça s'appelle savoir-vivre.
OK. On va dire.
Il
ouvre la porte, c'est gentil, c'est galant.
Oui.
Trop romantique, c'est quelqu'un qui veut que chaque occasion soit une occasion de célébrer notre amour. Là, tu fais comme. Personne tient à ça, là. Je veux dire, personne survit à ça. Même le gars survit pas à ça, là. Mais quelqu'un qui est galant, quelqu'un qui aime donner des petits cadeaux, des attentions, qui aime célébrer les petits moments de la vie, ben oui, c'est génial. Mon Dieu, je suis...
C'est de garder la flamme allumée, en quelque sorte.
Absolument, mais oui.
Moi, je t'ai déjà...
Célébrer notre amour et nos rencontres, c'est le fun.
Je t'ai déjà entendu dire dans une entrevue une fois que... Puis j'ai trouvé ça extraordinaire, puis tout le monde, ça devrait être ça pour tout le monde, en fait. C'est que je pense que tu es une femme quand même épanouie, qui est bien avec toi-même. Puis tu disais, moi, j'ai pas besoin de l'autre.
T'sais, non. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. C'est un plus. T'as dit quelque chose du genre, puis j'ai trouvé ça. Ça devrait tellement être ça. D'arriver à créer son bonheur soi-même, puis de faire de l'autre un plus à notre vie.
C'est facile. Mais c'est facile à dire pour moi, parce que, tu sais, je suis dans une belle position. Je gagne bien ma vie dans un métier que j'aime. Je suis célébrée par un public. Je suis une belle fille. J'ai confiance en moi. J'ai des amis. J'ai une famille en santé. Tu sais, je veux dire, c'est facile pour moi de dire je suis bien seule. Mais dans ma situation, j'ai appris à être bien seule. J'aurais pu vouloir plus, j'aurais pu ne pas être bien avec ça.
C'est moi, le résultat j'ai appris de tes choix.
Oui, c'est le résultat de mes choix, mais aussi des sacrifices que j'ai faits. Tu sais, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, là, je suis en tournée, puis je vois pas tout le temps mes amis, puis je sors pas tout le temps, puis je célèbre pas tout le temps, puis j'ai pas eu une adolescence normale. J'étais tout le temps en train de me demander qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Mais chaque personne prend les décisions qu'il veut, puis il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Tu sais, moi, j'en veux pas d'enfants, là. Mais il y a des gens et des jeunes de mon âge, là, des filles là, qui sont comme moi, j'en veux déjà deux à ton âge, là. Puis c'est correct, c'est génial. Moi, je suis pas là. Fait que je me suis choisi moi. Puis je suis bien seul. Je suis vraiment bien seul.
Bon, il y a des autres gens qui nous équivent. Il y a des gars qui nous équivent, ils ne sont pas discartés encore. C'est que ça va bien, là. Ça
ben oui, bien. Let's go. C'est quoi les autres affaires?
Peut-être que c'est un gars de Québec, là, dans le prochain dans ta vie, Mariana.
Ben pourquoi pas? Ça peut être un gars de Québec, ça peut être un gars de n'importe où. Puis en même temps, je le cherche pas, ce gars-là. Il va arriver quand ça va être le bon moment. Parce que je pense que vraiment, quand tu es bien avec toi-même, à un moment donné, il y a quelqu'un qui apparaît. Puis qui est bien avec soi-même, puis qui se dit « Hey, veux-tu qu'on soit ensemble? » Puis quand on a envie de se voir, on se voit. Puis quand on veut pas se voir, on se voit pas. Des fois, ça peut être simple, hein?
Oui, mais moi, je serais fier de dire « Hey, c'est un auditeur de Radio X, il écoutait l'émission, puis là, il est en amour, ça fait 5 ans avec Mariana. »
Il veut jouer les entrées
maintenant. Ça serait le fun. Peut-être que tu m'inviterais là, à quelque part à un moment donné. Tu sais,
non.
Non, OK. Non, bon, parfait. Bon, c'est, au moins, c'est clair. J'aime ça. J'aime ta franchise. OK. Hey, si le gars te dit, Mariana, là, ça fait 10-15 minutes que vous jouez ensemble, il dit « Moi, là, hey, moi, je suis un chasseur puis un pêcheur. Là, c'est 15 fois par année, je pars avec mes chums à la chasse et à la pêche. » Oups, tu prends tous tes
gens. Ben non, il a le droit de... Ben non, qu'elle vive sa vie. Là. Je veux dire, il a le droit de chasser puis de pêcher. Pourquoi je voudrais m'en aller? Bye! Va t'amuser.
OK.
Va t'amuser, va pêcher, va chasser. Par contre, oublie-moi pas à manger de la viande sauvage parce que moi, ça passe pas. Je le digère pas.
Ah, OK.
Mais manger du poisson, c'est n'importe quand. Mais s'il veut vraiment exclusivement que notre couple se soit mangé les viandes qu'il a chassées, j'ai peut-être un problème. Mais s'il a envie de s'en aller chasser... Hey, puis aller chasser 15 fois par année, il doit être riche en tabarnak, le gars, là. Il prend le congé de même, là.
Non, mais tu en plus, il est cuisinier. Il arrive, il t'amène du saumon au tabarouette.
Ah, t'es malade!
T'es malade, hein?
Non, pourquoi je voudrais le garder à la maison, va-t'en? Ça le rend heureux, puis il revient de bonne humeur. Let's go, va-t'en!
Tout le monde est heureux, je t'adore. Bon, OK, vas-y, Thibaut, toi.
Tu cherches-tu un gars qui est plus drôle ou moins drôle que toi?
Je le sais pas, parce que moi, je me trouve pas drôle. Moi, je suis juste allumé, je pense. Des fois, je dis des choses drôles sans m'en rendre compte. Je suis pas une fille drôle. Je pense que je suis sympathique, mais drôle, drôle. Tu sais, dans la vraie vie, il y a du monde tellement drôle que sur scène, ils sont pas drôles. Moi, je pense que sur scène, je suis drôle. Je pense que ma répartie peut être surprenante. Mais quelqu'un qui est aussi drôle ou plus, tant mieux, mais pas qui prend autant de place que moi. Parce que ça va être insupportable.
Il paraît que pour qu'une relation fonctionne, on doit respecter nos non négociables. Ce serait quoi tes deux ou trois non négociables pour toi?
Ah, mon Dieu, OK. Quand on va au restaurant, tu mets pas tes merelles. Ah non, tu mets pas tes petits souliers de marche, là. C'est hors de question, là.
On en connaît.
Moi, m'emporter des Salomon ou porter des merelles, tu gardes ça pour aller marcher dehors, mon ami, là.
OK.
Ça va être la première des choses. Deuxième des choses... coupe-toi le poil des oreilles puis du nez. C'est pas à moi de faire ça. Là. Je comprends qu'on se laisse vivre et laisser vivre, mais j'ai pas envie de donner un câlin à un gars puis que ses poils de nez ou d'oreilles viennent me coller à la face.
T'es déjà tombé sur un gars de même?
Ben, il y a des gars qui ont beaucoup de poils dans les oreilles.
Mais ils savent peut-être pas.
Ah, il faut que tu
non, mais c'est après tout, ça, c'est pas physique, c'est pas esthétique, c'est juste pas confortable pour moi. Puis après ça... La vérité, quelqu'un de jaloux. Mm. Ah, moi, tu peux pas être jaloux. N'importe qui pète une petite coche de jalousie, c'est fini. Bye-bye.
Ma conjointe, elle t'apprécie beaucoup. Elle dit, demande, dis donc, t'es-tu plus style manuel, un gars manuel ou un gars intellectuel?
Ah, c'est une bonne question. Un peu des deux, mais si j'ai à choisir, j'irais avec intellectuel.
Plus que manuel. Parce que manuel, tu peux acheter ça, là, tu sais. Tu as besoin d'un plombier, ben tu t'achètes un plombier.
Parce qu'à un moment donné, je veux dire, ma maison, elle pète pas tout le temps. Là. Je peux pas. Non, mais à un moment donné, je peux pas juste tomber en amour avec quelqu'un qui va me motiver parce qu'il a accroché deux cordes. Je suis capable de le faire, ça. Là. Sinon, je vais engager quelqu'un. Quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un qui a tous les jours quelque chose de le fun à me dire. Là. Mais il peut être manuel et intellectuel à la fois. Là. C'est pas parce que t'es dans la construction que t'es un imbécile.
Et voilà.
C'est pas parce que tu lis des livres que t'es un cave avec tes mains. Tu peux être les deux.
C'est bien dit. T'as toujours les bons mots, Mariana, tu le sais. Hein?
Ben non, mais c'est que je veux pas tomber dans le piège de catégoriser le monde. Ça serait facile de faire l'humoriste et de dire « Ouais, les gars, ils sont en construction, ils sont en cave. » C'est pas vrai. Je veux dire, il y a des caves dans tous les milieux, puis il y a des gars vraiment incroyables dans tous les milieux. Puis j'ai juste pas trouvé celui qui fit avec moi.
Bon, il nous reste 2 minutes. Ceux et celles qui n'ont jamais vu un de tes shows.
Ouais.
Ce soir, t'as aussi demain après-midi, puis t'as demain soir...
Oui.
Si jamais on se déplace, puis tu reviens souvent cet été, dans la prochaine année, faut qu'ils s'attendent à quoi, Mariana, pour voir un de tes shows, là?
Ben, il y a beaucoup d'énergie. Ça va être le fun. C'est sûr que tu ris. C'est sûr que tu te reconnais à un moment donné. Ça, c'est sûr. Tu vas faire « Oh mon Dieu, je suis tellement de même. » Ça, c'est sûr, à un moment donné. Puis ça se peut que la vision que tu avais de moi en faisant « Cette fille-là, elle a peur de rien », ça se peut que tu termines le spectacle en faisant « Ah, j'ai envie de lui donner un câlin ». Je pense que c'est ça que les gens vont avoir comme réaction. Je pense. Si tu m'aimais pas, si tu n'es pas capable de me voir, tu me dis « Elle, je suis pas capable », ça se peut que tu m'aimes pas plus. Là. Fait que c'est correct, tu n'es pas obligé d'acheter des billets. C'est pas un miracle, mon show. Là. Si tu m'haïs, tu vas m'haïr pareil. Là. Tu perds pas ton temps avec moi. Là. Si tu m'haïs, il y a plein d'autres humoristes, va t'amuser là-bas. Là. Bon, on va jamais t'obliger à m'aimer. Là.
Hey, c'est sûr que je vais te donner la note parfaite parce qu'on me demande toujours après le show, c'est quoi ta note? Ben, ma note, ça va être 10 sur 10, OK?
Non, attends de le voir le show. Non, mais, que tu m'écrives après le show. Ça se peut que tu me dises que c'est 12 sur 10.
Est-ce que tu veux que je t'écrive après le show?
Tellement! Mais oui, écris-moi sur Messenger comme d'habitude. On fera pas semblant qu'on s'écrit pas.
Hey, on fait un deal ensemble, OK?
Je t'écoute.
Faut toujours avoir une petite phrase punch aussi avec la note. Tu sais, style, mettons, un show surprenant ou...
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux que je dise, là? C'est quoi que tu voudrais que j'écrive? Vas-y, on fait ça entre toi et moi. Personne ne va le savoir qu'on se... La petite phrase punch, laquelle t'aimerais, toi?
Tu pourrais dire, je le savais que c'était la femme de ma vie.
C'est réglé.
C'est fantastique.
Je vais te mettre 15 sur 10. Je le savais que c'était la femme de ma vie.
Oh, Danny, je t'aime assez.
Hey, bon show à soir.
Hey, mais il y a un show demain.
Oui, il y en a deux demain.
Oui,
un après-midi et un soirée.
À 16h à 20h. Je suis parti, là, moi. Là.
Ben oui. Ouais. Hey, puis j'ai vu, je pense que tu reviens. C'est quasiment 10 shows que tu vas faire à la salle
de bain ou ça. Je viens souvent à Québec. C'est une des villes où je joue le plus. Puis je viens souvent ici parce que les gens achètent des billets. Puis je suis très reconnaissante. J'aime beaucoup cette ville-là. Je me sens bien ici. Tu sais, je suis nerveuse un peu pour ce soir. Parce que je sais qu'il y a du monde comme toi qui vont en parler après.
Oui.
Tu te demandes tout le temps si le monde va aimer. Mais je suis plus fébrile, contente que nerveuse. Oh mon Dieu, j'ai peur de me planter. Tu sais, genre, quand je finis l'entrevue avec vous, je fais une sieste de 30 minutes, je m'habille, je m'en vais souper, je finis le souper, je vais à la salle, je fais mon soundcheck. Après ça, je me maquille, je me coiffe, stand-by 20 minutes, je monte sur scène, c'est fini, là. Ça va débouler, là. Ça va vite, ce soir-là.
C'est sûr, ça va... sérieusement très, très, très bien aller parce que le monde de Québec, il t'adore. Et les gens le voient sur le texto, là.
Oui.
Puis les gens, écoute, ils te trouvent bonne en entrevue puis ils vont te trouver encore meilleur Saint-Simonac sur scène ce soir.
Dans la vie, je veux dire de quoi? On est dans une société en ce moment où est-ce que les gens n'ont pas beaucoup de sous pour aller voir du divertissement. Ils ont d'autres priorités. Payer de la bouffe, aller peut-être au restaurant pour une date avec leur femme ou leur mari, s'occuper des enfants, des voyages familiaux. Aller voir un spectacle d'humour, c'est un choix. C'est un choix, puis c'est comme c'est un surplus. Moi, je le sais que si tu me choisis, je vais tout donner pour que tu ailles la plus belle soirée de ta vie. C'est ce que je vais m'arranger. Après, je peux rien garantir. Mais ce que je peux te dire, c'est pendant 1h30, là, ferme ton téléphone, puis laisse-moi te divertir. Je suis vraiment bonne là-dedans. C'est vraiment ma plus grande force.
Bon, il y en a qui dit ici, elle est vraiment, mais vraiment hot, cette femme-là. Un autre nous inscrit. Si Mariana veut jouer au tennis, je vais l'inviter.
Ah,
qui écrit très bonne, c'est sérieux, c'est ma préférée, moi aussi.
Ah, c'est très gentil, merci. Mais un jour, j'ai hâte que vous me disiez, là, les gars, là, t'es mon humoriste préféré au Québec. Pas juste fille. Parce qu'on est moins de filles que de gars, fait que c'est plus facile de choisir ta préférée.
Ouais.
J'ai compris. Moi, je veux être choisi parmi tout le monde.
J'ai compris ton message. Tu me le répéteras pas deux fois.
C'est noté pour la prochaine
bon
fois.
Bon show ce soir, Mariana, puis les gens de Québec, on t'aime.
Merci.
Je vous aime aussi, puis Dani, c'est quand tu veux les entrevues. Hein. Quand je vais revenir cet hiver, ça va me faire plaisir d'aller te voir.
Oui, parce que, tu sais, la dernière fois, ça avait été bizarre. Là,
non, on s'était un peu chicané, mais
oui.
C'est ça la beauté dans la vie.
Oui.
Ton émission, là, tu sais, t'es pas à Radio-Canada où est-ce que t'as un mandat d'État. T'es dans une radio où est-ce que les gens sont eux-mêmes.
Et
je me suis pogné avec toi, puis j'étais moi-même, puis c'est correct.
Ben, je pense que cette journée-là, ça te tentait pas, puis tu as été franc, tu l'as dit.
Être authentique, c'est
non,
ça.
Mais tu vois, je t'apprécie beaucoup pareil, mais sais-tu quoi, les auditeurs, tantôt, quand j'ai annoncé que tu t'en venais, il y en a plein qui ont écrit « Comment ça va se passer, ce coup-là? »
Ben, c'est correct, mais tu vois, ils ont été curieux, puis ils sont restés. Mais tu sais, je suis authentique avec toi, surtout avec toi.
Oui.
Parce que tu m'avais tapé ses nerfs, puis je te l'ai dit.
Parfait. C'est ça. Moi, je tape ses nerfs à bien du monde.
Hey, ben, elle a contribué au taux de natalité aussi, hein? Grâce à elle, après un de ses shows, ma conjointe et moi avons enfin réussi à avoir notre deuxième enfant.
Tiens,
c'est fantastique.
C'est fou raide, c'est fou raide.
Hey, bon. Ben, je vous souhaite tellement de copuler puis avoir plein d'enfants après mes spectacles.
Je sais que tu reviens en février, là. On essaiera de te recevoir en studio ce coup-là si je te tape pas ses nerfs.
Je vais te donner un beau câlin, puis tu vas voir, on va se donner bien de l'amour, puis il n'y en aura plus de fret. Mais on est. Voilà comme t'es de la famille pour moi.
Oui,
je peux-tu venir?
Hey, merci beaucoup, Maria. Bon show ce soir.
Merci à vous, les amis. Bonne soirée.
Bye.
Le retour de Radio X.
On revient dans pas long.
Radio Ic. Le Carbo Show, présenté par 888casino.net. Longez dans 888casino.net. C'est fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit uniquement. Jouer de manière responsable. Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix. Choix. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
Bienvenue dans les Radio X Files en ce vendredi soir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, la thématique se portera en fait sur les ovnis et les extraterrestres. Et pour en parler, nul autre que Christian Page. Bonsoir, Christian.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien toi-même?
Oui, oui. Écoute, on est revenu un peu à notre... un peu quand on fait la roue de nos thématiques.
Oui.
Hein, on commence OVNI, parapsychologie, énigme de l'histoire, question du public. Et on revient finalement, la boucle se revient avec la question des OVNI. Donc, on est revenu en fait à notre fameuse boucle. Et oui, ce soir, la question des OVNI. Écoute, les OVNI en eux-mêmes, là, c'est peut-être dans l'actualité étrange et paranormale, parce que... Moi, je suis... On a comme des mots-clés. Là. Je suis abonné à plein de journaux et magazines. Et les abonnements, ben, on entre des mots-clés. Hein. On veut, quand les journaux publient, on entre le mot-clé. Bon, OVNI, en anglais, c'est UFO. Fait qu'à chaque fois que le nom apparaît, le mot apparaît dans les médias ou des articles de journaux, moi, je reçois un avis. Bon, Washington Post a publié un article sur les UFO. Mais... Et c'est vrai que ce sujet-là des OVNI, c'est sans aucun doute le sujet qui alimente le plus l'actualité dans la sphère de l'étrange et de l'insolite. Là. C'est incroyable la quantité de nouvelles qui circulent sur les ovnis. Bon, pas toujours très pertinentes, là, mais néanmoins, c'est toujours un sujet qui est très, très, très d'actualité. Et j'essaie, à chaque fois que la boucle tourne, j'essaie toujours de trouver les sujets les plus intéressants, puis ceux également qui ont le plus d'alimentation sur lesquels on peut discuter. Hein, parce que bon, quelqu'un, si je te raconte que M. Théberge, à Chibougamau, avait un ovni, je te récite, si je te dire qu'il a vu trois lumières dans le ciel, la conversation va s'arrêter là.
On est très heureux
Donc on n'aura pas une grosse conversation. Donc je t'ai encore choisi pour ce soir, pour les auditeurs, j'ai choisi quatre sujets qui ont attiré particulièrement mon attention. Dans le cas de notre premier sujet, j'ai également mis sur le site des Radio X-Files, le site Facebook des Radio X-Files, j'ai mis également une adresse où les gens pourront, si on clique dessus, ça pourra les ramener sur YouTube, où ils verront une vidéo de 17 minutes 30 secondes. En fait, c'est une vidéo qu'on appelle l'OVNI de El Takadum. El Takadum, ça se trouve en Irak. Donc, parce qu'on va en parler, hein, Et c'est toujours un peu pertinent de pouvoir voir l'image en question avant que les gens puissent décanter un peu l'information qui tourne autour. Et donc, oui, cette première nouvelle, c'est l'OVNI d'Altakadoum qui a été analysé et étudié par l'ARO, hein, le bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Hein, c'est ce que l'acronyme en anglais veut dire. Et c'est un organisme étatique qui a été mis en place en 2022 à la demande du Congrès américain pour enquêter sur les histoires d'OVNI. Je fais quand même un petit aparté parce que l'ARO, c'est quand même étonnant que c'est une organisation qui est née comme étant des sauveurs. Hein. C'était des héros. Ils sont devenus des zéros dans le milieu des amateurs d'OVNI. Là. Quand l'organisation a été créée en 2022, les amateurs d'OVNI, bon, on allait sur les médias sociaux, Facebook et tout le reste. Et dans la communauté des amateurs d'OVNI, c'était comme l'ARO, c'est devenu la nouvelle affaire qui est la plus belle invention depuis le pain tranché. Là, hein? Ça allait révolutionner le monde. Écoute, il y a des gens, là, des amateurs d'OVNI, qui allaient même jusqu'à dire que le monde allait changer. Il y aurait un avant-ARO et un après-ARO. Hein? L'ARO allait révéler au monde entier qu'on était visités par des extraterrestres. Le monde était enfin prêt pour la grande révélation. Moi, en passant, je te dis que la première chose qu'on me dit quand j'ai rejoint les milieux ufologiques dans les années 70, c'est « la révélation est pour bientôt ».
Oh,
et là,
Dieu,
on était en 1976. Et en 2025, donc 49 ans plus tard, elle n'est toujours pas arrivée, la grande révélation imminente.
Mais bon, petit aparté, oui. Christian, petite question comme ça. À partir de quel moment dans l'histoire l'humain s'est mis à s'intéresser aux extraterrestres, aux ovnis? C'est-tu à partir du moment où les États-Unis allaient dans l'espace? Ou...
Non, en fait, évidemment, indépendamment des sources que tu vas consulter, c'est sûr qu'on peut remonter jusque dans l'Antiquité. Okay. Hein, les amateurs d'ovnis vont dire, ouais, quand on regarde des anciens textes dans la Bible, par exemple, on nous dit que Ézéchiel, près du lac, a vu une nuée dans le ciel, des animaux avec des ailes. Bon, pour ces gens-là, la vision d'Ézéchiel devient l'arrivée d'un vaisseau spatial sur Terre. Dans certaines fresques ou peintures rupestres, hein, donc là, on recule même dans la préhistoire, il y a des représentations qui, pour vues avec les yeux de personnes qui sont habituées aux voyages spatiaux comme nous le sommes, ben, peuvent être interprétées comme étant des aéronefs dans le ciel. Bon, évidemment, tu auras bien compris que les archéologues ou les exégètes, les exégèses qui travaillent sur des textes anciens n'ont pas la même définition de ce que l'on voit. Hein. Bon, pour eux, la vision d'Ézéchiel n'a rien à voir avec les extraterrestres, c'est plutôt une allégorie avec l'arrivée de Dieu ou la création d'un messager ou d'un prophète. Hein. Donc, dans toutes les religions du monde, par exemple, quand Ézéchiel dit « je vis un char de feu », ben, si toi tu vois un vaisseau spatial, c'est bien, mais les exégètes te feront remarquer que dans l'histoire, Dieu est toujours représenté par le feu. Et pour un peuple hein, comme les Hébreux, par exemple, c'est un peuple de montagne, c'est un peuple qui n'est pas super puissant. Qui sont les puissants de cette époque? Les Romains sont des puissants, les Grecs sont puissants, les Égyptiens sont des puissants. Et ce qui caractérise les puissants, c'est qu'ils ont des chars. Hein, les Hébreux n'ont pas des chars, mais les Grecs ont des chars, les Romains ont des chars, les Égyptiens ont des chars. Donc, quand Ézéchiel dit « je vis dans le ciel un char de feu », ben le char représente la puissance, hein, comme les Grecs ou les Romains. Puis un char de feu, ben c'est Dieu qui arrive sur son char. Hein, Dieu arrive pas en gogoune, là. Hein, Dieu arrive sur un char de feu. C'est donc, tu vois l'allégorie, là, ici, là. Bon, si toi, tu veux voir un vaisseau extraterrestre, ben, libre à toi. Donc, on peut faire cette gymnastique puis reculer jusque dans l'Antiquité puis dire, ben voilà, on a des représentations ou des textes qui font référence à des objets dans le ciel. Mais si on regarde plutôt l'ère moderne, hein, à quel moment dans l'ère moderne on va commencer à voir dans le ciel des aéronefs mystérieux et en parler, où ça va devenir en fait un sujet de discussion là, très élargi, c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, après la guerre, des gens vont commencer à voir dans le ciel des aéronefs, des objets étranges, qu'ils vont rapporter comme des engins d'origine exotique. Mais il faut quand même se dire que entre 1945, disons, pour les amateurs d'OVNI, on s'est entendu sur une date, et cette date, c'est le 24 juin 1947. C'est la date à laquelle un pilote civil qui survolait le Mont Rainier dans l'État de Washington a observé 9 objets qui ressemblaient un peu à des croissants. Et qui allait très, très vite. En fait, ces objets-là, selon son estimation, se déplaçaient 2 fois plus vite que la vitesse du son. Et quand il s'est posé à l'aéroport, donc, il était persuadé qu'il avait observé des engins d'origine soviétique, hein, parce que, faut quand même se le dire, on était au-dessus du Mont Rainier dans l'État de Washington. Et si on fait abstraction un peu de la côte du Canada, là, de la côte de la Colombie-Britannique, qu'est-ce qu'il y a de juste en face de l'État de Washington? Ben, c'est l'Union soviétique, c'est la Russie d'aujourd'hui, là. Oui. Par contre, et à cette époque, bien évidemment, c'était la guerre froide, c'était ce bras de fer qui se jouait entre les deux superpuissances. Donc, ce fameux Kenneth Arnold, quand il observe ces fameux croissants volants, lorsqu'il se pose, on est un vendredi après-midi. D'ailleurs, à cette époque, si on voulait envahir les États-Unis, c'était le bon moment, le vendredi après-midi, parce qu'on découvre avec l'affaire de Kenneth Arnold que les bureaux du FBI sont fermés le vendredi après-midi. Donc, Kenneth Arnold se pose à l'aéroport, se rend rapidement au bureau du FBI local pour signaler ce qu'il a vu, et là, il se bute à une porte close. Donc, il retourne à l'aéroport et il parle autour de lui aux autres pilotes qui sont là en attente de vol, tout ça. C'est un pilote civil, on s'entend, il a son petit avion. Il vend des marchandises là, pour combattre les incendies, des fournitures d'incendie. Donc, il est là, à la cafétéria, puis il parle avec des gens autour de lui. Puis il dit « Hey, c'est incroyable, j'ai vu au-dessus du Mont Rainier ces fameux objets. » Et là, éventuellement, ça arrive aux oreilles d'un journaliste qui l'invite dès le lendemain matin dans son bureau pour raconter son histoire. Et ce journaliste va publier dans le journal un article dans lequel il dit « Un pilote civil a vu des soucoupes volantes. Hein, » le terme est lancé. C'est là qu'il apparaît première fois, là, officiellement. Mais en fait, Kenneth Arnold n'a pas utilisé le mot « soucoupe volante » pour décrire les objets, mais plutôt pour décrire leur mouvement. Hein, quand il parle avec le journaliste lui demande « À quoi ça ressemblait ces fameux objets extraordinaires que vous avez vus? » Et Kenneth Arnold répond, il dit « Ça ressemblait à des croissants volants. » avec un centre plus sombre. Et là, le journaliste lui a demandé « Est-ce que ça se déplaçait comme des avions conventionnels? » Kenneth Arnold prend un moment d'arrêt et lui dit « Non, ça se déplaçait plutôt comme des soucoupes que l'on aurait fait ricocher sur de l'eau. » C'est quand même une figure de style étrange. Généralement, on parle d'un caillou, d'un galet qu'on aurait fait ricocher sur de l'eau. Mais Kenneth Arnold dit non, comme une soucoupe qu'on aurait fait ricocher sur de l'eau. Et le journaliste, lui, il fait pas ni un ni deux. Hein. Il publie son article en disant un pilote a vu des soucoupes volantes. Mais en réalité, ce qu'avait vu Kenneth Arnold, c'était des croissants volants qui se déplaçaient comme des soucoupes qui ricochaient. Mais bon, peu importe, le terme était lancé. Et donc, à partir de cette date, le 24 juin 1947, on va ouvertement parler de soucoupe volante. Mais déjà à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des pilotes au-dessus de l'Europe avaient rapporté des objets mystérieux, des lumières étranges. Bon. Mais c'est vraiment, si on veut avoir une date, parce qu'on aime bien avoir une date pour un élément de référence, c'est vraiment le 24 juin 1947. Mais il faut attendre le début des années 50 pour que dans l'imaginaire collectif, les extraterrestres percolent. Hein, au début, là, je te dirais, entre 1947 et grosso modo 1952, Quelques articles évoquent la possibilité, on parle pas encore d'astronautes, on n'est pas encore allé dans l'espace, hein. Le premier satellite artificiel autour de la Terre, c'est 1957, hein, en octobre 57, avec le Sputnik. Donc, à ce moment-là, là, en 1947, les voyages dans l'espace, et on est 10 ans avant, là. Mais quelques articles de journaux très aventuriers, disons-le comme ça, ce risque en disant, et si ces fameuses soucoupes volantes étaient pilotées par des aviateurs venus d'une autre planète? On parle pas d'astronautes, on dit des aviateurs venus d'une autre planète. Mais ce n'est pas vraiment l'hypothèse la plus répandue. Entre 1947 et 1952, l'hypothèse la plus répandue, c'est que ces objets, ces fameuses soucoupes volantes, sont ou bien des engins secrets développés par l'armée en secret, ou bien des engins russes. Hein, parce que, bon, il y a toujours cette peur du communisme, hein, qui nous guette, hein, donc et les Russes. Et ce qui ajoute d'autant plus à l'idée des Russes, c'est que à la fin de la guerre, les Allemands, qui avaient un pas d'avance un peu sur le reste des nations dans le domaine de l'aéronautique, avaient développé un premier chasseur turbopropulsé. Et ce turbochasseur propulsé s'appelait le Horten HO-229. Et le HO-229, crois-le ou non, il avait la forme d'un croissant volant. Mais, les armées du Troisième Reich ne l'ont jamais commercialisé. Hein. L'avion, il n'est jamais arrivé sur les chaînes de montage. En fait, on est arrivé trop tard. On avait développé, des ingénieurs de la Luftwaffe allemande avaient développé sur papier ce prototype. On en avait fabriqué deux ou trois hein, pour les mettre à l'essai. Et quand est arrivé le temps de passer au montage, on était déjà là, tardivement en 1944, l'armée allemande avait essuyé là, de nombreuses défaites. On croyait vraiment, on appelait ça des Wunderwaffen, hein, les armes miraculeuses. Ça devait sauver le Troisième Reich, ces armes miraculeuses. Malheureusement, quand les Allemands ont voulu commercialiser, ou à tout le moins sur les chaînes de montage, produire en série le HO-229, une erreur des ingénieurs fait que le moteur était trop gros pour entrer dans l'espace moteur. Donc, il a fallu renvoyer les ingénieurs à leur planche à dessin.
Mauvais calcul,
mais à ce moment-là, la guerre était déjà perdue pour l'Allemagne. Et quand les Alliés, on parle des Américains et des Russes qui sont arrivés en Allemagne, ben là où on avait commencé à construire les HO-229, on a détruit les prototypes. Mais néanmoins, à la fin de la guerre, le savoir allemand s'est partagé entre les Américains et les Soviétiques de l'époque. Et ces gens-là, les savants allemands dans le domaine de l'aéronautique, ont été exfiltrés vers ou l'Union soviétique ou les États-Unis. Dans le cas des États-Unis, c'est un projet qui s'appelait le projet Paperclip. On a permis à ces anciens nazis de redevenir des bons citoyens du côté des États-Unis pour travailler au développement éventuellement du programme spatial américain. Donc, tout ça pour te dire que comme les Allemands travaillaient sur ce fameux prototype qui ressemblait à un croissant volant, quand arrivent les premiers signalements, et en particulier l'observation de Kenneth Arnold, qui dit « J'ai vu des croissants volants », tu comprends qu'en haut lieu, dans l'état-major américain, on se dit « Tiens, 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 un pilote civil voit au-dessus du mont Rainier des croissants volants. » Et la façon dont il les décrit, ça ressemble étrangement au HO-229. Bien sûr, le HO-229 n'a jamais officiellement vu le jour, mais comme les Soviétiques ont récupéré le savoir allemand dans le domaine de l'aéronautique, ou à tout le moins une partie du savoir allemand, puisque l'autre partie, ce sont les Américains qui les ont récupérés, les Américains se posent la question, est-ce que les Soviétiques seraient pas en train de construire un HO-229 version 2.0, tu comprends? Parce qu'ils ont récupéré le savoir allemand. Et c'est probablement la raison pour laquelle, en 1947, les Américains vont se lancer pour une première fois dans l'étude des ovnis en créant, dès décembre 1947, un premier projet d'étude sur les ovnis qui va s'appeler le projet SIGN. On ne parle pas d'étudier les ovnis, on parle d'étudier les soucoupes volantes. Hein, c'est le nom que ça a à l'époque. Le mot ovni n'a pas encore été inventé. Et c'est probablement, les gens pensent que, de façon générale, puis les amateurs d'ovnis aiment ça nous faire croire ça, là, que les Américains, les hauts gradés américains étaient au courant de visites extraterrestres, puis c'est pour ça qu'ils ont créé le projet SIGN. C'est de la foutaise, ça. En réalité, pourquoi l'état-major américain s'est intéressé aux soucoupes volantes dès 1947? C'est parce que les premiers témoignages faisaient référence à des croissants volants qui ressemblaient à des armes allemandes qui n'ont jamais vraiment vu le jour, mais qui étaient déjà sur les planches à dessin dès la fin de 1945. La fin de 1944, début 1945. C'est la seule raison. Et très rapidement, les Américains ont commencé à s'intéresser, via le projet SIGN, à ces soucoupes volantes, pour découvrir finalement qu'il y avait à peu près rien là-dedans. Mais pour le grand public en général, quand on parlait des soucoupes volantes entre 1947 et 1952, on parlait surtout d'engins qui étaient possiblement d'origine russe. Si je devais traduire le mot soucoupe volante dans l'imaginaire populaire de 1947, c'était quelque chose, on appelait ça une soucoupe volante, mais si on demandait aux gens qu'est-ce qu'une soucoupe volante, ils t'auraient répondu quelque chose qui vole, puis on sait pas trop c'est quoi, mais c'est probablement d'origine russe. C'est ça que ça voulait dire. Derrière le mot soucoupe volante, c'est ça que ça voulait dire. Mais bon, à partir de 1952, des auteurs très populaires, je pense notamment à un ancien de la US Navy, un type qui s'appelle le major Donald Keogh, qui va s'intéresser aux soucoupes volantes, va commencer, lui, il fait beaucoup il brode beaucoup autour des extraterrestres. Hein? Et les ouvrages de Donald Keogh deviennent très populaires et peu à peu, à partir des premiers livres de Donald Keogh, là, on est début 1950, on voit dans l'opinion publique peu à peu là, se familiariser l'hypothèse que les soucoupes volantes sont des engins extraterrestres. Donc, c'est de là que ça revient. Mais tout ça pour revenir à notre histoire d'aujourd'hui. Donc, en 2022, donc, c'est, le gouvernement américain avait cessé de s'intéresser officiellement aux soucoupes volantes à partir de 1969.